Chapitre 3. En fin d'après-midi, les nains et Alduin passent les portes de Rottenstorm, un gros bourg qui s'étale au fond d'une vallée ombreuse. Sur la place, on a déjà monté les premiers étals de la foire. Marchands et badauds pataugent dans la neige fondue. Au coin des maisons hautes s'entassent des tas d'ordures, dans lesquelles fouillent des cochons gris. Des odeurs fortes de crasse, de cuisine et de pourriture agressent les narines des deux amis. Ici, tout leur paraît sale, étroit, encombré. Le brouhaha continue, des conversations leur évoquent un gros essaim d'abeilles. Alduin tient fort la main de Léna. Il sait qu'il devrait retourner chez lui, mais il n'a pas le cœur de laisser son ami seul dans ce monde hostile. Son estomac gargouille, il soupire. « On devrait chercher de quoi manger. « Regarde !» s'exclame Léna en lui montrant du doigt une enseigne branlante. « Une auberge !» Tirant Alduin par la main, l'adolescente l'entraîne vers la gargote. Ils poussent la porte ensemble et pénétrèrent dans une salle enfumée, déjà pleine de dîneurs qui rient haut et parlent fort. L'atmosphère est saturée de relents de soupe. Des plateaux de charcuterie et de fromage circulent entre les tables. Alduin ne peut s'empêcher de saliver. Léna, elle, en se faufilant entre les clients, arrive jusqu'au comptoir. Là, elle se hausse sur la pointe des pieds. « Excusez-moi, je suis guérisseuse et je cherche... » Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, un homme au cou de taureau l'empoigne par ses cheveux fauves. « Voyez-vous ça, une sorcière rousse! Tu descends de tes forêts, tu vivais avec les loups! Lâchez-la !» s'écrie Alduin depuis l'entrée de la salle. Sa voix vibre d'indignation, la colère assombrit ses yeux clairs. Cependant, rien de tout cela n'impressionne le colosse. Au contraire, il éclate d'un rire gras. « Qui es-tu, toi, le moucheron? Son fiancé ou son lutin domestique ?»« Je vous ordonne de la lâcher !» réplique le garçon. Il tire son couteau de sa ceinture. L'homme se lève lourdement de son siège, prend les autres clients à témoin. « Vous avez vu? Il me provoque !»« N'insiste pas, Grégor !» intervint l'aubergiste. « Ce ne sont que des enfants !»« Toi, patron, tu restes en dehors de ça. Préviens le colosse !» Puis, il se retourne vers Alduin, toujours sans lâcher Léna, qui se débat et lui donne des coups de pied dans les jambes. « Et toi, le môme, je t'embroche d'une seule main !» Il saisit une pique à jambon, le fait tournoyer tel une épée au-dessus de sa tête. Les autres clients s'écartent de lui. Alduin se met en garde, son dérisoire couteau de berger brandi comme un bouclier face au danger. Le colosse s'apprête à frapper. Juste avant qu'il abaisse son arme, un coup de feu retentit. Le colosse suspend son geste, lâche brusquement son arme de fortune. Une surprise douloureuse s'inscrit sur son visage. Du sang coule de sa main droite, celle qui tenait la pique à jambon. Léna profite de l'occasion pour se libérer. En quelques pas, elle rejoint Alduin. Du fond de la salle, quelqu'un lance. « On n'agresse pas les minots !» Tous les regards se tournent vers celui qui vient de parler. Assis dans un coin, l'homme porte une veste d'uniforme usée, des bottes brunes sans forme et une capuche de cuir qui lui masque le visage. Sur sa table, à côté de son bol de soupe, repose un mousquet encore fumant. « Merci, mon prince !» s'écrie Léna. Le soldat la salue d'un geste. Soudain, le monde de la vallée apparaît moins hostile à Alduin. Il vient de se découvrir un allié. Derrière le comptoir, le patron se racle la gorge, embarrassé. « Excusez-moi, mon lieutenant, mais je vais vous demander de sortir. Vous avez tiré dans mon établissement. Si vous partez pas, je vais devoir appeler la garde. »« Mais il vient juste de sauver Alduin !» s'emporte Léna. « C'est égal !» grogne le patron. « La loi est la loi !»« Tout va bien !» tranche le militaire. Il se redresse, déplie son long corps maigre en faisant craquer ses os. Puis il finit son bol de soupe, range son mousquet dans sa ceinture et ramasse son barda. « Suivez-moi !» conseille-t-il à Alduin et Léna. « Vous n'êtes pas à votre place ici. » Les deux amis se consultent du regard. Sans un mot, ils sortent derrière le soldat. Les clients de l'auberge reprennent leur discussion comme s'il ne s'était rien passé. Dehors, le crépuscule gagne la vallée. L'ombre de la montagne s'étend sur Rottenstorm. Sur la place, les marchands rangent leurs étals. Le soldat achète une tourte au dernier boutiquier ouvert, la partage en trois. « Pourquoi vous nous aidez ?» l'interroge Alduin tout en mâchant. « Parce que vous en avez besoin, » répond simplement le soldat. « Vous n'êtes pas d'ici, non ? Vous avez un endroit où dormir ? » Léna secoue la tête. Ce serait trop simple. Je connais une fermière à l'entrée du bourg, elle accueille les voyageurs. Je vais vous présenter, elle vous permettra de dormir dans sa grange. Léna engloutit sa part de tourte, tire Alduin par la manche. Tu penses qu'on peut se fier à lui? Cette manière qu'il a de surgir de nulle part et de résoudre tous nos problèmes, c'est trop beau pour être vrai. Moi, je lui fais confiance, déclare Alduin d'un trait. Je ne sais pas comment te l'expliquer, je l'ai senti dès que je l'ai vu. Cet homme ne nous apportera aucun mal. Léna lève un sourcil perplexe. D'habitude, dans leur duo, c'est elle qui suit son instinct et Alduin qui réfléchit et qui doute. La fille rousse hésite, jette un regard alentour. Les maisons ferment l'une après l'autre leurs volets et le froid descend. Alduin et elle ne peuvent pas se permettre de dormir à la belle étoile. Il finirait gelé. D'accord, accepte-t-elle, on le suit, mais on garde un œil ouvert. Ils gagnent pour la nuit une grande ferme à l'extérieur du bourg. La propriétaire, une veuve accueillante, les met tout de suite à l'aise. Elle leur propose de dormir dans sa grange. Léna et Alduin grimpent dans le foin, au-dessus des vaches. Léna s'endort aussitôt. Alduin, lui, ne trouve pas le sommeil. Il se tourne et se retourne en faisant craquer les brins de paille. Tout est allé si vite ces deux derniers jours, trop de pensées s'agitent sous son crâne. Il finit par se lever et rejoint le soldat qui, debout sur le seuil, astique son mousquet à la lueur de la lune. « Tu ne dors pas ?» Alduin fait non de la tête. Le militaire ne lui demande pas plus d'explications, continue de lustrer le canon de son arme. Au bout de quelques minutes, le garçon lui demande. « Vous êtes lieutenant ?»« Le patron de l'auberge vous a appelé comme ça ?»« Non, j'étais simple sergent, et de toute façon j'ai quitté l'armée. » Les mots du soldat, calme et posé, apaisent Alduin. Pour la première fois depuis qu'il a quitté son village, le garçon se sent en sécurité. Pourtant, il ne sait quasi rien de l'homme au visage caché. Il aimerait lui poser tellement de questions. Par où commencer? Il demande en hésitant. « Vous serviez dans quelle compagnie ?»« Dans celle du duc de Rome. » Alduin a un coup au cœur. « Mon frère aussi !» s'exclame-t-il. « Vous l'avez sans doute connu. Il s'appelle Sigmund et il vient de Rosheim. » Pendant une seconde à peine, Alduin voit poindre un espoir fou, irraisonné. Il imagine que cet inconnu qui vient de lui sauver la vie pourrait être son frère. Le soldat reprend la parole, cassant net ses illusions. « Non, dit-il, je n'ai pas connu de Sigmund, mais nous étions si nombreux sous les ordres du duc. » L'excitation d'Alduin retombe. La montagne lui paraît plus sombre, la nuit plus froide. Il frissonne. « C'est pour ça que tu as quitté ton village ?» l'interroge le soldat. « Pour retrouver ton frère ?»« Non, avoue le garçon. » « Non, mais s'il revenait, tout serait résolu. Avec lui, plus personne ne craindrait les guerriers de glace. Plus personne ne voudrait envoyer Léna à la mort. » Sa voix se brise. Le soldat demande sur un ton plus doux. « Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ?» Alduin hoche la tête. « C'est la fille de la guérisseuse. Les autres disent que c'est une sauvageonne, qu'elle vit dans les forêts, qu'elle n'est pas vraiment humaine. Pour moi, elle est comme ma sœur. » Et les gens de ton village relancent le soldat. Pourquoi veulent-ils sa mort? Raconte-moi. Le garçon déballe alors tout ce qu'il a sur le cœur. L'absence de son frère, les guerriers de glace, la décision de son père. Il confie sa vie entière à cet inconnu, depuis ses premiers souvenirs d'enfance jusqu'à sa fuite dans la forêt. Il se sent bientôt plus léger. Le soldat l'a écouté sans rien dire. Alduin lève les yeux vers lui, guettant une réaction, un signe. Mais le capuchon de l'homme masque toujours son visage. « Qui êtes-vous » demande le garçon. « Vous nous avez secourus, Léna et moi, et je n'ai même pas vu votre visage. Je ne connais même pas votre nom. » Le soldat soupire. « Je ne ressemble plus à grand-chose. » Il abaisse sa capuche. Alduin a un sursaut. La lune éclaire crûment le profil du soldat. Son visage mutilé est traversé par une double cicatrice qui a détruit à jamais le dessin de ses traits. Comment était-il avant? Impossible de le dire. Aux yeux de bien des gens, il passerait pour un monstre. Pourtant, tout ce qu'Alduin ressent à son égard, c'est une immense compassion. Il ne peut s'empêcher de demander. Comment est-ce arrivé? Le soldat botte en touche. Ça n'a pas d'importance. Et puis je le méritais. Ce que j'ai fait pendant la guerre... Je n'en suis pas fier. Les cicatrices sont là pour me le rappeler. Gêné, il recoiffe d'une main ses cheveux blonds trop longs, essaie d'ironiser. Et maintenant, Damoiseau, Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas rester ici avec ta bonne amie? J'aimerais rentrer dans ma montagne, mais sans elle. Le garçon baisse la tête. Sans elle, je ne sais pas. Il hausse les épaules, ajoute. Et vous? Vous retournez dans votre famille? Une tristesse soudaine voile les yeux du soldat. Non, moi je cours les routes, et j'aide ceux qui en ont besoin, comme toi et ton ami tout à l'heure. J'ai commis de mauvaises actions pendant la guerre, je te l'ai dit. Alors je cherche à réparer. Il se tait, pose son mousquet contre le mur. Alduin l'observe avec attention. Le soldat est grand, autant que Sigmund dans son souvenir. Un peu plus maigre, mais tous les hommes perdent du poids à la guerre. Et blond, comme Sigmund l'était. Une idée étrange, audacieuse, commence à germer dans l'esprit d'Alduin. Il rassemble tout son courage, demande aux soldats. « Vous voulez bien nous aider encore, Léna et moi ?